Messieurs, dames, bonsoir. Il est 18h au studio Kalangou. Tout de suite, le journal en français à la présentation Rahilat Soumana. Le plan de réponse humanitaire 2017 du Niger visant à assister les populations vulnérables est financé à 35% et celui de DIFA à 11%. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA, vient de l'annoncer. Le bureau de l'Assemblée nationale a été renouvelé le lundi 27 mars dernier. Reste à attribuer la première vice-présidence de la Haute Cour de justice qui suscite des interrogations au sein de la mouvance et de l'opposition parlementaire. Évaluation des risques de corruption dans l'octroi des licences, contrats et permis miniers. C'est le thème de la table ronde organisée hier mardi à Agadez par Transparency International, à suivre dans la partie magazine de cette édition. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA, vient d'annoncer le financement du plan de réponse humanitaire 2017 du Niger. Le plan de réponse humanitaire constitue une partie de la réponse humanitaire au Niger. Il est complémentaire au plan du gouvernement visant à assister les populations vulnérables. Les détails avec Nafisa Adam Sirfou.
Le plan de réponse humanitaire du Niger est financé à environ 47 milliards de francs CFA. Cela représente 35% des besoins financiers estimés à environ 135 milliards de francs CFA par les autorités nigériennes et les partenaires humanitaires. C'est ce que relève le rapport 2017 du plan de réponse humanitaire janvier-décembre 2017 publié par OCHA. Du fait de l'environnement sécuritaire et humanitaire qui prévaut à DIFA, cette région est spécifiquement financée à hauteur de 11%, soit environ 15 milliards de francs CFA. Ce plan de réponse humanitaire vise spécialement les secteurs alimentaires, de la santé, de l'éducation, de la nutrition, de la protection, de l'eau, l'hydraulique et l'assainissement. Il cible 1,5 million de personnes sur les 1,9 million de personnes qui auront besoin d'une assistance humanitaire en 2017 dans au moins un secteur. À DIFA, 340 000 personnes auront besoin d'assistance alimentaire.
L'Assemblée nationale a renouvelé les membres de son bureau. Ils sont 6 vice-présidents, 3 questeurs et 6 secrétaires parlementaires élus pour un nouveau mandat d'un an. Le président, lui, est élu pour toute la législature, soit 5 ans. Par ailleurs, se pose la question de la première vice-présidence de la Haute Cour de justice, poste qui, selon l'usage, revient à l'opposition. C'est à ce titre qu'il a été attribué l'an dernier au MNSD Nassara, aujourd'hui que cette formation a rallié la mouvance présidentielle. Qu'en est-il? Écoutons Maître Karim Niandou, député du parti Lumana. Il estime que le poste doit rester à l'opposition.
En principe, il n'y a pas de problème. Vous avez constaté vous-même comment le bureau a été renouvelé. C'est dans le consensus. C'est le groupe parlementaire qui décide, donc les membres qui doivent occuper donc les postes. Maintenant, effectivement, il y a un poste qui reste à pourvoir, qui pose encore un problème. C'est la vice-présidence au niveau de la Haute Cour de justice, qui, vous le savez, était occupée auparavant par le MNCD, qui était alors à l'opposition. Le MNCD aujourd'hui a regagné donc la mouvance présidentielle. Il ne doit plus conserver ce poste. C'est pour ça que nous pensons qu'il sera raisonnable de faire démissionner leurs membres pour que le poste revienne à l'opposition parlementaire, qui est constitué aujourd'hui par Lumana Africa et Hankuri. Dans le cas où il refuserait d'entendre raison, on n'aura pas d'autre choix que de saisir donc le juge constitutionnel qui nous dira, en dépit donc du fait qu'on dise que le mandat des membres de la Haute Cour de justice est de 4 ans, nous dira est-ce qu'en dépit donc de ça, la Haute Cour de justice va être occupée uniquement par les membres de la mouvance présidentielle.
Pour Momouni Lamido, député de la majorité, admet aussi que ce poste revient à l'opposition parlementaire. Cependant, il estime que la Cour constitutionnelle est la mieux placée pour arbitrer.
Au moment où nous avons été élus vice-président à ce niveau-là, le député qui a été élu là-bas au nom du MNSD Nassara ou du regroupement MNSD Nassara Hangouri et Tabat, aujourd'hui, ce poste devait revenir à l'opposition, mais du point de vue du droit, on a dit que les 4 députés sont élus pour 5 ans. Maintenant, il appartient à la Cour constitutionnelle, il nous faut saisir, de dire la régularité de cette représentation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais je pense qu'il ne faut pas verser dans le dilatoire, il faut simplement demander un avis. Et cet avis-là, il tient tout le monde.
Propos recueillis par Habibou Garba. La commandante Aïchatou Issaka Ousmane, médecin militaire des forces armées nigériennes, a été honorée par le gouvernement américain d'une médaille du prix du courage féminin 2017 pour, je cite, son engagement à aider les victimes des attaques terroristes et de leurs familles. De décembre 2014 à juin 2016, la commandante Aïchatou a participé à la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, MINUSMA. La distinction lui sera remise par le secrétaire d'État américain Rex Tillerson aujourd'hui 29 mars à Washington, D.C. Les 7 centrales syndicales qui constituent l'intersyndicale des travailleurs du Niger ITN ont rendu publique une déclaration ce matin à la CNT sur la situation socio-économique du pays. Dans sa déclaration, l'ITN exige au gouvernement la tenue des engagements pris de meilleures conditions de travail pour l'ensemble des travailleurs du Niger. Écoutons Manu Badié, secrétaire général de l'Union des syndicats des travailleurs du Niger, USTN, au micro de Habibou Garba.
Cette déclaration a été faite après avoir analysé la situation socio-économique de notre pays. Nous avons décidé de rendre publique cette déclaration dans laquelle nous avons dénoncé un certain nombre de faits parce que le gouvernement ne respecte pas ses engagements vis-à-vis d'abord de l'ITN, vis-à-vis des syndicats des enseignants et des autres syndicats sectoriels. Nous avons dénoncé la situation des travailleurs de la ville de Niamey qui totalise 8 mois d'arriéré de salaire. Nous avons dénoncé le comportement du gouvernement vis-à-vis des syndicats des travailleurs en général parce que le président du comité interministériel des négociations avec les partenaires sociaux, dès son entrée en fonction, a commencé avec des attaques verbales, avec des lynchages médiatiques, avec des menaces à peine voilées, des intimidations. Ils sont arrivés jusqu'à faire des arrestations dans les rangs des syndicalistes pour des prétextes fallacieux. Nous avons dit que tout ça là, ça ne concourt pas à la paix sociale. Il faut que le gouvernement se ressaisisse, lui qui a la charge de conduire les affaires de ce pays, pour qu'il y ait un retour à la sérénité. Le gouvernement a tout intérêt à entendre d'une bonne oreille ce que nous avons envoyé comme message. S'il ne le fait pas, il reste entendu que nous allons nous prendre nos responsabilités comme nous l'avons dit dans la déclaration. Nous allons mobiliser les travailleurs pour lutter. C'est ça notre devoir, c'est ça notre droit aussi.
Début hier de la première session ordinaire du conseil municipal du conseil communal Niamey 3, les questions des ressources financières de cette commune seront abordées durant 4 jours. Le maire de la commune 3 explique que pour éponger les arriérés de salaire de 2016 des agents de municipalité, il serait mieux de mettre à leur disposition des parcelles. Adamoutine Alzouma, maire de la commune 3, est au micro de Moutari Mahamadou.
Nous avons attiré l'attention des conseillers sur les difficultés que nous avons connues au cours de l'année 2016, à savoir les grèves perlées, intempestives, et qui ont pour conséquence négative vraiment la réalité de nos ressources. Cette précarité a fait que nous ne parvenons pas à améliorer le cadre de vie de nos concitoyens comme cela est attendu. C'est pourquoi nous avons lancé un appel pour demander un changement de comportement des employés et aussi un changement dans le système de gestion. Car vous n'êtes pas sans savoir que c'est les arriérés de salaire qui sont à la suite de ces mouvements d'humeur. Vous savez, les salaires relèvent de la ville de Niamey. Ce n'est pas des arrondissements. Mais l'un dans l'autre, nous avons discuté au cours du conseil des villes précédent et nous avons fait des propositions. Les salaires de l'année 2016, nous avons fait un comité à travailler pour voir si on va faire des arriérés contre parcelles.
Les enseignants technologues de l'Institut universitaire agroalimentaire et nutritionnel de l'Université de Tillabéri ont tenu une assemblée générale lundi 27 mars dernier. Au cours de cette réunion, ils ont dénoncé ce qu'ils qualifient de comportement irresponsable du directeur du dit institut, notamment l'irrégularité dans la procédure de suppression des salaires d'un enseignant technologue. Daouda Souley, secrétaire général du BEN-SNEJ, section Tillabéri, est au micro de Issa Karimou.
Entre autres comportements du directeur, nous pouvons citer la sélection de certains dossiers des étudiants sans commission pour les valider, le transfert unilatéral de la salle des enseignants sans pour autant les aviser, le harcèlement de quelques camarades enseignants, l'irrégularité de la procédure de suspension de salaire d'un camarade enseignant technologue, une zone d'ombre autour de la gestion des frais de formation des étudiants, la discorde entretenue au sein de l'UIT, des propos purement régionalistes. Face à cette situation révoltante, nous enseignants technologues de l'Institut universitaire de technologie de l'Université de Tillabéri rappelons au directeur que nous saurions accepter son comportement nuisible à ce jeune institut. Demandons au ministre des Enseignements supérieurs, de la Recherche et de l'Innovation de prendre toutes ses responsabilités en mettant fin à cette dérive à laquelle le directeur a plongé ce nouvel institut universitaire. En tout état de cause, devant le comportement du directeur que rien ne peut expliquer, les enseignants technologues rendent seul responsable le directeur de tout ce qui adviendra.
Nécrologie dans ce journal, le haut commissaire à l'initiative 3N, Wandeba Botorou, est décédé hier mardi à Abidjan en Côte d'Ivoire de suite d'une maladie. Il avait été nommé responsable de cette institution en avril 2015. Wandeba Botorou était âgé de 70 ans.
Studio Kalangou.
Les programmes de Studio Kalangou
à Dosso
sur la radio Far-A
92 FM.
Studio Kalangou.
Il est 18h11, la partie magazine de ce journal. L'Association nigérienne de lutte contre la corruption, section de Transparency International, a organisé ce mardi 28 mars à Agadez une table ronde des acteurs sur le thème « Évaluation des risques de corruption dans l'octroi des licences, contrats et permis miniers ». Une activité d'échange qui a bénéficié de l'appui financier de Transparency International, International Australie. Maman Wada, secrétaire général de l'ANLC, section nigérienne de Transparency International, explique les objectifs visés par cette table ronde.
Cette table ronde vise à approfondir et à enrichir un outil d'évaluation des risques de corruption dans l'octroi des permis miniers, des licences et des contrats. Évidemment, c'est un projet que nous partageons avec un projet de TI Australie que nous partageons avec certains pays africains très stratégiques dans le développement et notamment le Niger parce que le sous-sol de ces pays en développement regorge de nombreuses ressources minières, pétrolières et gazières alors que parallèlement les populations ont beaucoup de besoins. Il est évident aussi que des entreprises viennent exploiter les ressources minières. Il est évident aussi que les citoyens exploitent sous la forme artisanale les ressources minières. Mais l'un dans l'autre, il y a des difficultés à résoudre, il y a des obstacles à résoudre, des obstacles de transparence, des obstacles par lesquels les populations n'arrivent pas à profiter des ressources minières du sous-sol. Évidemment, c'est l'occasion pour nous de contribuer à ce que dans ce secteur-là, moins de corruption ou pas du tout de corruption, à l'occasion des passations de ces permis miniers et des licences.
Parmi les sujets abordés, celui des clauses des contrats d'exploitation minière, interrogé par notre correspondant Moussa Maman, un certain nombre de participants ont relevé l'absence de transparence dans ce domaine. On les écoute.
Il y a beaucoup de leçons tirées quand même de cette table ronde. La première, c'est qu'aujourd'hui, il est grand temps qu'il y ait une prise de conscience généralisée sur les méfaits de la corruption, notamment dans le domaine concerné, le domaine minier. La grande partie des Nigériens ignore les clauses ou les conditions même des négociations entre l'État nigérien et les preneurs de ces permis ou les demandeurs de ces permis. Alors qu'à ces niveaux, on voit déjà qu'il y a des risques, les risques de corruption pour plusieurs raisons. Un, personne ne sait le contenu ou les termes de référence ou l'esprit de ces contrats. Très peu des Nigériens sont informés des conséquences de l'échec de ce contrat. Nous avions déduit dans nos interventions que, premièrement, le politique est pressé d'avoir l'argent pour faire sa politique, pour faire sa gestion politique. Les preneurs sont souvent des opérateurs économiques qui viennent pomper rapidement toutes les ressources. Et ici, le risque, c'est quoi? C'est que les générations futures n'auront pas d'héritage. Les seuls héritages qu'ils vont avoir, c'est peut-être une terre invivable.
Cette table ronde est la bienvenue pour nous. On a beaucoup parlé sur la corruption. La corruption, elle a gangréné la région d'Agadez. Par rapport à la mine de Somina, comment est-ce qu'on va signer un contrat dont on ne connaît pas les tenants et aboutissants? C'est pourquoi moi j'ai dit qu'il y a des risques de corruption là-bas, il faut aller voir.
Propos recueillis par notre correspondant Moussa Maman. C'est ici que prend fin cette édition, mais n'oubliez pas que vous pouvez retrouver l'ensemble de nos informations sur notre site internet www.studiokalangu.org ainsi que sur nos comptes Twitter et Facebook. Restez en compagnie de nos programmes avec le forum présenté par Diallo Mariama. Au revoir.
De Niamey à Arlit,
de Tillabéri à Difa.
Suivez les programmes du studio Kalangu sur votre radio.
Studio Kalangu, au rythme du Niger.